Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
Sí, 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 sí.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde et pour le Kosovo ce soir. Presque 20 ans après la fin de la guerre, il reste des hommes disparus. C'est un deuil impossible et vous comprendrez ce que ça veut dire dans le quotidien. Ce soir aussi, la suite de l'affaire de la tricherie au cricket qui met l'Australie à l'envers. C'est sous les radars et Florence Paracuelos. 18h50, la carte blanche des correspondants de France Inter en Russie et en Italie ce soir. L'Italie qui se délecte des séries sur les mafias, figurez-vous. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four au lendemain de la manifestation pour Mireille Knoll hier. Nous regarderons jusqu'à quel point l'Europe entière est victime d'une montée de l'antisémitisme, même s'il n'a pas toujours la même forme. Avant cela, nous sommes en Irlande notamment, mais aussi en Argentine ou en Pologne, derrière des manifestations de femmes. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Cette fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est ce qui se passe en Argentine dans le débat sur l'avortement. 7e fois en congrès, peut-être le début d'un espoir pour les associations. On va y venir pendant que l'Irlande, elle, et ça on le sait depuis hier seulement, va voter un référendum. C'est une date importante, ce sera le 25 mai prochain. Bonsoir Véronique Seyer.
Bonsoir.
Vous êtes coprésidente du planning familial. Preuve qu'il se passe des choses sur ces fronts-là. Est-ce que vous êtes du genre bouteille à moitié pleine ou bouteille à moitié vide si on regarde nos voisins plus ou moins éloignés?
Alors, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a des pays qui bougent de façon favorable grâce à des luttes de femmes et des luttes qui durent depuis des années et des années. Hein, quand je pense aux Irlandaises qui se bagarrent pour supprimer de la Constitution cet article qui interdit clairement l'avortement. Et les Argentines qui, comme vous le dites, se bagarrent depuis des années pour obtenir l'accès à l'avortement. On n'y est pas encore, mais en tout cas, un projet de loi est en train d'être étudié. Le président a dit clairement qu'il n'y s'y opposerait pas. L'opinion publique est majoritairement pour, mais on voit bien les réactions des anti-choix, l'Église catholique en tête, pour contrer effectivement cette avancée très forte. En Irlande, pareil. Et par contre, on voit aussi des régressions en Pologne, où l'avortement est déjà autorisé dans des conditions très restrictives. Et puis, on sait bien en plus qu'il ne suffit pas des lois pour faire bouger les choses. Quand on regarde la situation de l'Italie en Europe, où la loi est assez proche de la loi française, on voit bien qu'il suffit de ne pas mettre en place les services ou d'utiliser la clause de conscience pour empêcher les femmes d'accéder à ce droit fondamental.
Alors, une chose après l'autre, un pays même après l'autre, on va quand même aller y faire un tour dans cette Irlande qui est en train de bouger. Bonjour Hervé Amoric.
Bonjour Fabienne.
Hervé, expliquez-nous un petit peu ce que ce référendum prévoit de changer exactement. Qu'est-ce qui se passe le 25?
Alors d'abord, l'avortement est illégal. C'est un acte criminel puni de prison en Irlande, à part dans le cas extrême où la vie de la mère est en danger. C'est pourquoi plusieurs milliers d'Irlandais se rendent chaque année en Angleterre dans des conditions souvent difficiles pour subir une IVG. Et dans des situations graves, il y a même des cas où le corps médical tarde à intervenir tant que le cœur du fœtus ne s'est pas arrêté de battre. On se souvient du cas dramatique d'une jeune dentiste décédée dans un hôpital de Galway en 2012 après une fausse couche. Elle s'appelait Savita Alapanavar. Elle est morte d'une septicémie parce que les médecins ne sont pas intervenus à temps. Pourquoi? Parce que la loi est confuse et parce qu'il y a ce fameux article 8 de la Constitution qui donne les mêmes droits à la mère et à l'enfant à naître, au fœtus. C'est cet article que le gouvernement propose de retirer et ensuite légiférer pour un avortement très encadré. Il ne s'agit pas d'une grande libéralisation, mais au moins un avortement possible dans les premières 12 semaines de la grossesse et au-delà de 12 semaines, uniquement si le fœtus n'est pas viable.
Donc on a bien compris, un pas, mais petit pas, en tout cas peut-être à venir à partir du 25 mai. Hervé, il faut quand même dire aussi que l'Irlande a beaucoup changé ces dernières années, ces derniers mois. 2015, ça a été le mariage pour tous par référendum et ça a été le premier pays à l'adopter, en tout cas comme ça. Donc des choses importantes, l'avortement reste pourtant un sujet sensible qui divise l'opinion, plus que le reste en fait.
Qui fracture l'opinion irlandaise, comme d'habitude, comme toujours. Plus on s'approche du référendum, plus les deux camps, le oui et le non, se rapprochent dans les sondages. Le oui a perdu au moins 4 points depuis janvier et se maintient juste au-dessus des 50% pour l'instant des personnes interrogées. Et le non, lui, a pris 10 points depuis le début de l'année. Donc, une nouvelle fois, on retrouve ces mêmes divisions avec les groupes d'âge, les plus âgés sont clairement dans le camp du non, tandis que la ville se montre plus libérale que la campagne, comme d'habitude en Irlande. Mmh. Mais il y a une différence importante dans cette campagne, si on la compare au dernier référendum, c'était il y a 35 ans sur l'avortement, mmh. ou même à la consultation sur le mariage pour tous, l'Église catholique et les institutions religieuses qui avaient largement pesé dans ces débats-là sont absentes cette fois, au moins de façon officielle. Bien sûr, l'autorité morale de l'Église a été érodée en Irlande par des scandales à répétition, mais la société irlandaise se sécularise et l'argument religieux n'est même plus l'argument majeur dans le temps du non.
Merci beaucoup Hervé pour ces précisions. Véronique Seyé, comment se fait-il que si l'Église recule, comme le dit Hervé Amory, est-ce que c'est aussi qu'elle se montre moins, qu'elle est moins en première ligne dans cette lutte-là ?
Oui, je pense qu'elle se montre sans doute moins, mais qu'on voit bien que sont à l'œuvre aujourd'hui les anti-choix avec des moyens qui sont très différents. Enfin, je ne vais pas parler du Brexit, mais je pense qu'on essaye aussi de convaincre les gens de différentes façons, via les réseaux sociaux, certainement de façon beaucoup moins officielle, mais pour agir sur l'opinion publique pour aller vers le non.
Vous voulez vous dire que c'est le même canot en
c'est
fait.
Exactement,
ceux qui ont fait fonctionner
ouais.
le Brexit sont les mêmes canaux pour
tout à fait,
ce référendum.
Tout à fait. Là, il y a des choses qui se mettent en place et on sait bien, alors qu'il y a une mobilisation très forte et que l'opinion publique était plutôt favorable à l'avortement, en tout cas au droit pour les femmes de décider elles-mêmes.
Alors une fois toutes les 35 ans, hein, ouais. c'est terrible d'y penser, mais une fois tous les 35 ans, ça veut dire que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Vous l'avez, je voudrais qu'on reste un peu en Europe avant de partir en
oui.
Argentine, vous l'avez évoqué, vous parlez de l'Italie qui a une loi qui est à peu près effectivement similaire à la nôtre, 70% des gynécologues, si bien oui. que les Italiennes redescendent dans la rue en ce moment, 70% des gynécologues refusent de pratiquer des avortements. 70%.
70%, et c'est pour ça que quand on parle d'une loi sur l'avortement, il ne suffit pas d'avoir la loi, il faut qu'elle soit appliquée partout de la même façon, et on voit bien que la question de la clause de conscience. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, un pays comme la Suède n'a pas inscrit la clause de conscience dans sa loi. Et on voit bien d'ailleurs que des réseaux commencent à dire qu'il faut faire bouger la loi suédoise pour l'intégrer. Là où la loi l'a intégrée, alors en France, on n'est pas du tout dans ces proportions-là, mais on voit bien que des médecins ou des professionnels de santé empêchent les femmes d'accéder à l'avortement de façon rapide. Alors, il y a plein de façons de faire. C'est de ne pas donner la bonne information, de faire revenir les femmes plusieurs fois. Et en Italie, ouvertement, on a des hôpitaux et des cliniques ou des services complets pratiquent cette clause de conscience et empêchent donc les femmes d'y accéder.
Mais Véronique Seyé, est-ce que ça veut dire que c'est en augmentation, il y a plus de médecins en Italie par exemple aujourd'hui qui font jouer cette clause de conscience ou est-ce que ça finalement était toujours le cas ?
Non, ça n'a pas été toujours le cas, mais effectivement, c'est depuis plusieurs années en quantité importante et que l'Église catholique est toujours très présente et agit contre le droit à l'avortement. Donc comment font les femmes italiennes aujourd'hui ? Elles doivent partir à l'étranger pour celles qui ont les moyens.
Sinon c'est les solutions maison à nouveau comme...
Sinon c'est des solutions maison ou alors des avortements pratiqués dans des cabinets privés à un prix défiant toute concurrence. Et donc ce qui crée des inégalités très fortes entre les femmes. Et qui sont les femmes qui à chaque fois font les frais de ce type d'agissement ? Ce sont les femmes qui ont le moins de moyens. Donc on a des discriminations entre les femmes liées à un manque de connaissances, à un manque de réseau et à un manque de moyens financiers, certainement.
Et encore là, on parlait tout à l'heure de certains réseaux pour ce qui est de l'Angleterre, en Italie, en Allemagne aussi finalement, où l'avortement n'est pas légalisé,
Exactement.
Mais dépénalisé, ce
voilà.
qui sont deux choses extrêmement différentes. Les explications viennent d'où ? Ce recul vient d'où, en fait ? Est-ce qu'on sait ce que vous le savez ?
J'ai envie de dire que la question du contrôle du corps des femmes a toujours été présente, hein, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est-à-dire empêcher les femmes de décider elles-mêmes, et on voit bien aujourd'hui dans ce qui se passe en Pologne, mais aussi dans ce qui se passe au niveau de l'Europe, la volonté de faire reconnaître la vie comme étant, comme démarrant à la conception, et de faire passer le droit de l'enfant à naître, the unborn child, qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les textes, avant le droit de la mère à décider elle-même. Alors, on est dans la contradiction, c'est-à-dire qu'on dit à la fois qu'on ne peut pas obliger une femme à poursuivre une grossesse dont elle ne veut pas, mais on ne peut pas attenter à la vie d'un éventuel embryon qui n'est même pas, enfin qui n'est pas désiré, enfin qui n'est, on peut pas parler de projet d'enfant à partir du moment où c'est une grossesse qui est absolument inattendue, non voulue, etc.
Alors vous avez cité la Pologne, effectivement les femmes étaient dans la rue encore, c'était
vendredi noir. Oui.
Voilà, vendredi noir, la loi qui durcit, destinée voilà. en gros à durcir et interdire l'avortement même en cas de malformation du fœtus.
Voilà, c'est ça.
Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quoi cette nouvelle génération de militants européens? C'est pas vous, c'est pas votre génération, c'est pas la mienne non plus d'ailleurs. Quelle est cette nouvelle génération-là ? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui ?
C'est sûr qu'il y a une nouvelle génération de, enfin, les mobilisations contre l'avortement ont toujours été présentes. Ils utilisent aujourd'hui de nouvelles façons d'agir, mais en même temps, ils sont très bien formés. Enfin, quand vous êtes à New York, par exemple, dans l'enceinte de l'ONU à la commission sur le statut des femmes aujourd'hui, vous voyez des groupes de jeunes très bien formés pour argumenter sur le droit à la vie de l'enfant à naître, pour argumenter contre les droits des femmes, pour argumenter contre l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est ça qui est au cœur du problème. C'est de considérer que la femme, son premier rôle, c'est d'abord de donner la vie. Et au mépris de la vie des femmes, d'ailleurs, et au mépris de leurs décisions. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de considérer que la vie de la femme a finalement très peu d'importance et son rôle, c'est vraiment d'être à la maison, de s'occuper des enfants.
Alors vous le disiez, pardon de vous interrompre, vous le disiez, il y a certains pays qui avancent et qui essaient d'avancer. Je voudrais qu'on aille en Argentine, puisqu'en Argentine quand même, 7e fois devant le Congrès, 7 c'est beaucoup, mais preuve que les choses commencent doucement à avancer. Bonsoir Caroline Vic.
Bonjour.
Bonjour Caroline, les mouvements féministes, là pour le coup, sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur et d'importance.
Oui, cela fait 13 ans que des organisations mènent maintenant une grande campagne pour un avortement libre, sûr et gratuit. Aujourd'hui, elles sont 500 à sensibiliser, à conscientiser et à informer. Le 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes, la place de Mai était envahie par des foulards verts, symbole de la lutte pour l'avortement légal. Virginia, 44 ans, y était présente.
L'Argentine est un pays machiste. Nous venons des Espagnols et d'une culture, d'une croyance religieuse. Qui dit religion, dit conditionnement. Le gouvernement antérieur, par exemple, n'a pas approuvé l'avortement à cause des questions religieuses. Incroyable. Un grand gouvernement, mais qui avait cette faille.
Natalia González-Seligra est dirigeante syndicale et l'une des députées à avoir signé le projet de loi.
On sait qu'il existe un lobby ecclésiastique au Parlement. Mais par ailleurs, il y a une connivence avec les secteurs qui profitent des avortements clandestins. On estime entre 370 000 et 500 000 avortements par an. Un avortement coûte environ 20 000 pesos, qui équivaut à un salaire dans notre pays.
Voilà, et parmi ces femmes, Caroline, c'est pas très étonnant qu'ils avortent dans la clandestinité. 50 000 sont hospitalisées chaque année à la suite de complications.
Soit 10% des femmes réalisant un avortement, 3 000 sont mortes ces 30 dernières années. Gisela a 30 ans. Il y a 3 ans, elle est tombée enceinte. Pour elle, ce n'était pas le bon moment et elle a souhaité avorter. Pas de chirurgie sauvage dans son cas, mais une forte dose d'un médicament censé provoquer un avortement spontané. Son témoignage.
Fueron 12 horas. Tuve muchísimas fiebres, vómitos.
Ça a duré 12 heures. J'ai eu énormément de fièvre, j'ai vomi, il y avait beaucoup de sang, des cailloux, et je n'ai pas réussi à expulser l'embryon. Mais la grossesse s'était interrompue. Donc on a appelé une fondation pour faire une aspiration intra-utérine. Après ça, j'étais très soulagée. Mais on ne sait pas à qui on peut en parler. On se sent coupable. Plus coupable encore parce qu'on doit tout gérer toute seule. Parce que tout se fait en cachette. Ce n'est pas du tout comme un traitement médical normal, car tout est réalisé dans l'illégalité. C'est de la violence faite aux femmes, de la violence institutionnelle, de la violence de l'État.
Une dernière question, Caroline, pour vous. Les laboratoires où l'État sont fortement critiqués, mais l'Église est particulièrement montrée du doigt, mais au pays du pape, il ne faut jamais oublier cette mesure, on va dire, 80% de catholiques, le débat se veut très houleux.
Le catholicisme est une religion d'État. En Argentine, il n'existe pas de séparation entre l'Église et l'État. Le gouvernement subventionne, par exemple, les écoles privées, verse un salaire aux évêques, curés et séminaristes, mais la population, elle, en grande majorité catholique, forme souvent ses idées à partir de ses croyances religieuses, même si l'Église évolue. Père Ramon Abeijón, prêtre à l'église de San Cayetano à Buenos Aires.
L'Église ne sta in una cruzada fondamentalista. La scienza nos dice che
l'Église n'est pas lancée dans une croisade fondamentaliste. La science dit simplement qu'il y a de la vie lors d'une union. Ce n'est pas un problème de catholicisme, c'est un problème de bioéthique, de sens de la vie. Aujourd'hui, lors d'avortements clandestins, il y a beaucoup de morts qui sont dues à des politiques qui n'intègrent pas l'éducation à la sexualité humaine. Il y a donc un gros problème de santé publique et d'éducation. Il faut déployer les moyens en amont pour éviter d'arriver à l'avortement.
Le projet de loi est actuellement analysé dans différentes commissions. Fin mai, on saura si le texte passe à l'Assemblée, puis au Sénat, ou s'il est de nouveau rejeté.
Caroline Vic, merci beaucoup. L'exemple de l'Argentine, Véronique Seyé, qui prouve à la fois effectivement que le chemin est long, c'est un vrai chemin de croix pour les Argentines, mais en même temps, il se passe des choses, y compris dans ce pays-là.
Oui, il se passe des choses absolument incroyables et on a une très forte mobilisation de toutes les femmes. Il faut savoir quand même qu'en Amérique latine, 97% des femmes vivent sous une législation hyper restrictive en matière d'avortement.
Avec le Salvador en tête notamment,
avec
qui est le pire,
puisqu'on peut aller en prison même pour une fausse couche spontanée. Donc ça, c'est quand même important de préciser.
Un chiffre à 500 000 avortements, c'est beaucoup, c'est un chiffre important. Alors je ne sais pas si on le rapporte à la population exactement ce que ça donne, mais ce que ça veut dire aussi, c'est un peu ce que disait d'ailleurs le dernier intervenant, c'est que le bas blesse aussi en matière de politique de contraception, en fait, et d'éducation à la contraception.
Alors, d'éducation à la sexualité de façon plus large, mais une éducation à la sexualité qui donne le choix et qui donne toutes les informations. Parce qu'on on sait très bien que dans certains pays, l'éducation à la sexualité se résume à promouvoir des politiques d'abstinence. C'est ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, dans certains États. Donc, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que des politiques d'éducation à la sexualité, se développent en donnant toutes les informations nécessaires sur les moyens de contraception modernes. Par exemple, un des débats, toujours dans cette conférence internationale, c'était de ne pas utiliser le terme moyen de contraception moderne, mais plutôt planification familiale, de façon à englober les politiques d'abstinence. Donc, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de donner toutes les possibilités pour les femmes de choisir, les femmes et les jeunes filles, d'avoir accès à la fois à des moyens de contraception, mais aussi d'avoir accès à l'avortement. On a parlé de violence, c'est une violence inouïe que d'empêcher une femme d'avorter. Et d'ailleurs, dans la Convention d'Istanbul, une convention internationale qui a été ratifiée par l'Europe, il est précisé que c'est une violence envers les femmes que de les empêcher d'accéder à l'avortement et de ne pas mettre en place les services nécessaires.
Mais on essayait juste une dernière chose, on en tant parler avec l'Argentine, on a entendu parler avec l'Italie, avec d'autres. Il faut financer ces croisades-là. Est-ce que c'est toujours l'Église, en fait, ou est-ce qu'il y a d'autres sources de financement qui sont de véritables freins ?
Aujourd'hui, on a bien sûr l'Église qui est au cœur de ces financements, mais pas seulement l'Église, on a des mouvements ultra-conservateurs et des mouvements traditionnels, des mouvements, j'ai envie de dire, populistes aussi, qui financent ça. On voit bien l'alliance improbable entre différents mouvements contre le droit des femmes et pour contrôler le corps des femmes, on trouve des alliances qui vont du Vatican aux pays d'Afrique, aux pays d'Arabes, à Russie et États-Unis, s'unissent tous contre les droits des femmes, on peut le dire.
Véronique Seyé, co-présidente du planning familial, merci beaucoup. Pas toujours réjouissant, mais enfin, il y a quand même aussi quelques bons baromètres.
Des bons baromètres, des avancées, et nous allons soutenir de façon très importante la lutte des Irlandaises et la lutte des Argentines,
et
bien
sûr. C'est la première que nous suivrons, puisque le premier référendum, c'est celui des Irlandaises, et c'est le 25 mai prochain. Merci beaucoup.
Merci. Saint-Père, Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le
monde. La suite d'un jour dans le monde est au Kosovo. 20 ans après la guerre, les familles cherchent encore leurs fils disparus. Florence Paracolos nous envoie en Haïti notamment, où les journalistes sont mobilisés pour l'un des leurs. La carte blanche des correspondants est en Russie avec Claude Brouillot, en Italie aussi avec Mathilde Imberti. 18h55, Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Nous ne sommes pas les seuls sur le terrain du combat contre l'antisémitisme.
Exactement, après le meurtre de Mireille Knoll, le retour de la bête immonde est flagrant en France, oui, mais pas seulement, en fait, dans presque toute l'Europe.
Allez, à tout de suite. Le tour du monde n'est pas fini, il passe par la Californie avec les Hills de Deconstruction.
Little pieces on the floor that make
Deconstruction, les Hills sur France Inter. Florence Paracolos est là et elle est sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Interventia extra.
Florence, les journalistes haïtiens sont mobilisés après la disparition de l'un des leurs.
Où est Vladimir le gagneur? Question lancinante depuis la disparition de ce photojournaliste il y a 15 jours. Il était parti en reportage à Grand Ravine, l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale Port-au-Prince, l'un des plus violents aussi, et depuis, plus rien. Sa femme a porté plainte, mais l'enquête semble inexistante, d'où cette marche blanche organisée hier à Port-au-Prince. 200 journalistes et des proches de Vladimir le gagneur ont convergé vers le ministère de la justice.
Présence-nous devant le ministère de la justice, c'est pour dire autorité la police, sécurité publique avec la justice en général. Nous exiger lumière sous disparition pour frère Nouan, Vladimir le gagneur, avec la vérité sur sa passé. Nous pas besoin solidarité ministère de la justice ou bien aucun ministère. Nous exiger action. Faut que nous joignions Vladimir.
Faut que nous joignions Vladimir.
L'État prend responsabilité.
Nous n'avons pas besoin de solidarité gouvernementale, on a besoin d'action depuis 15 jours. En réalité, c'est comme si rien n'avait été fait pour retrouver Vladimir le gagneur. On peut donc disparaître impunément en reportage en Haïti. Reporters sans frontières dénonce l'inquiétante lenteur de la procédure, comme si le quartier de Grand Ravine, le quartier de la disparition, était définitivement laissé aux gangs armés.
Allez, en beaucoup plus léger, Florence, le scandale, que dis-je, le drame, que dis-je, la tragédie du cricket en Australie, la suite alors?
Mais oui, vous vous souvenez, on en a parlé lundi, l'Australie tout entière, en émoi après un match de l'équipe nationale au Cap en Afrique du Sud, le capitaine et deux de ses coéquipiers pris en flagrant délit de tricherie, filmés en direct sur le terrain en train de rapper la balle dans l'idée de faire changer sa trajectoire quand elle est lancée au batteur de l'équipe adverse. Et puis le joueur qui planque le papier de verre, parce que c'était ça finalement, c'était du papier de verre dans son slip, filmé.
Donc c'est assez courageux finalement.
Filmé là aussi et diffusé sur les télés du monde entier. Shocking, a dit le Premier ministre australien. Les joueurs ont été suspendus un an de l'équipe nationale, privés de la prochaine saison de Ligue 1 en première Ligue indienne. Ils étaient retenus en Afrique du Sud pour enquête depuis samedi et ce match de la honte hier, au moment de leur départ, ils ont été hués à l'aéroport. Et vous imaginez dans quel état ils sont rentrés. Le capitaine Steve Smith, qui a tout perdu, a donné une conférence de presse à son arrivée.
To fans of cricket all over the world,
aux fans de cricket du monde entier et à tous les Australiens que j'ai déçus et mis en colère.
I'm sorry.
Je suis désolé.
I made a serious error of judgment,
j'ai commis une sérieuse erreur de jugement et j'en mesure les conséquences.
I'll do everything I can to make up for my mistake.
Je ferai tout ce que je peux pour réparer mon erreur.
And the damage it's caused.
Et les dégâts qu'elle a causés.
I know I'll regret this for the rest of my life.
Je la regretterai éternellement.
I'm sorry and I'm absolutely devastated.
Je suis désolé, je suis complètement dévasté, dit Steve Smith, ses yeux bleus, pleins de larmes. Nous qui ne sommes pas Australiens et qui ne vivons pas ce drame national, on aurait presque de la peine.
Mais on a de la peine, c'est terrible ce qu'on vient d'entendre.
Du cricket, meilleur batteur du monde, sa chute n'en est que plus spectaculaire, le voilà banni. Outre les 12 mois de suspension en équipe nationale, il ne pourra pas prétendre à un poste de leader dans l'année qui suivra sa reprise. D'ici là, il ne lui reste plus que les clubs locaux et les travaux d'intérêt généraux infligé par la fédération. L'opprobre et la responsabilité de ces millions de dollars retirés par les sponsors à l'équipe d'Australie. Son entraîneur craint désormais pour sa santé mentale et celle des deux autres joueurs. Pour eux, il réclame une seconde chance, Fabienne.
Voilà, je me demande quelle sorte de travail d'intérêt général on peut faire avec du papier
de
verre.
Des petits clubs locaux. Ils sont censés faire des travaux d'intérêt général auprès des petits clubs locaux.
Bon ben, voilà. Écoutez, on lui souhaite.
Ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus rien.
Je ne sais pas ce qu'on lui souhaite à ce monsieur. En tout cas, tragédie, Florence Paracuelos. Merci.
Ses voisins vont le détester.
Ah bah,
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et ce soir, c'est au Kosovo que je vous emmène dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde, le Kosovo. On a eu l'occasion d'en parler ici même, qui a fêté ses 10 ans d'indépendance, même si 80 pays dans le monde ne le reconnaissent pas toujours, à commencer d'ailleurs par la Serbie voisine. Bonsoir Lila Lefebvre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Lila, le Kosovo, dans nos mémoires avant tout, c'est une guerre, des mois de combat, la dernière des guerres yougoslaves, comme on disait à la fin des années 90, 13 000 morts et toujours 1 700 portés disparus. Aujourd'hui encore, des familles qui ne savent rien de leurs proches disparus et dont la quête est rendue plus difficile encore par deux choses. D'abord, l'absence de dialogue entre les gouvernements serbes et kosovars et puis les crispations ethniques qui gangrènent toujours cette région. On écoute votre reportage.
Nous étions à la maison, les femmes dans une pièce et la plupart des hommes cachés ailleurs dans la maison. Nous, les femmes, on regardait ce qui se passait dehors. C'était le 31 mars, à 14h30. La police serbe est entrée dans la maison en fracturant la porte d'entrée.
Et puis Nesret Ekumnova a vu la police serbe pointer son arme sur la nuque de son mari et emporter son fils Albion, ainsi que son frère et trois de ses neveux. Quelques mois plus tard, on a retrouvé les corps de ses neveux dans une rivière en Serbie, jamais celui d'Albion. C'était le 31 mars 1999. Depuis, elle n'a pas de nouvelles de son fils. Dans sa rue, à Djakova, toutes les maisons ont un disparu, un fantôme dont on ne sait rien et qui empêche de faire le deuil.
Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens, ni pour mon fils, ni pour les autres victimes innocentes. Je pense à ces personnes qui travaillent à la police et qui ont commis ces crimes. Ils sont jeunes, innocents, et n'ont pas conscience de ce qui s'est passé. C'est vraiment dur.
La douleur de Nesreté est figée dans le temps. Fabien Bourdier est coordinateur de la recherche des personnes portées disparues dans les Balkans pour la Croix-Rouge internationale. Ce traumatisme, il le constate chez tous les proches de personnes portées disparues.
La douleur des familles n'est comparable à aucune autre. On appelle leur douleur psychologique la perte ambiguë, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation d'incertitude et ils hésitent toujours en pensant que leur disparu est vivant ou mort. Et ils ne peuvent pas se décider psychologiquement à prendre une décision. Et donc ils vivent tout le temps entre ces deux sentiments. Dans la même journée, ils peuvent y penser 10 fois, il est mort, il est vivant, sans prendre de décision.
Je suis Asrem Kumnova, le père d'Albion, qui est sur cette photo. Je suis le beau-père de Xim. Là, ici, c'est mon beau-frère.
Asrem et Nesreté passent leur journée en compagnie de la photo de leur fils Albion, un blondinet de 17 ans aux yeux clairs. Dans le local où ils se retrouvent avec d'autres familles, les murs sont tapissés des photos des disparus de Djakova. 143 visages, surtout des jeunes hommes, quelques vieillards et puis deux femmes. Pourtant à Djakova, comme dans la majorité du Kosovo, les trois quarts des disparus ont été retrouvés à la fin de la guerre. Certains sont revenus vivants, c'était le dernier espoir de Nesreté. Parce qu'après, on a commencé à déterrer des charniers, à identifier des corps. Mais il en manque encore 1 700 fantômes comme Albion.
Quand il est trop tard, seuls les tests ADN fonctionnent.
Louis Djendou est membre de la Commission internationale pour les personnes portées disparues. Cette ONG fondée à La Haye privilégie les tests ADN pour retrouver les disparus, contrairement à la reconnaissance visuelle, pourtant très utilisée il y a 20 ans au Kosovo.
Il est très compliqué et c'est particulièrement vrai sur les zones de conflit de se cantonner aux méthodes traditionnelles d'identification. Cela pour différentes raisons. La première, c'est que dans la majorité des cas, les auteurs veulent effacer les traces de leurs crimes. Des corps ont été déplacés. Et donc, on n'a pas que des charniers d'origine, mais on découvre aussi des charniers secondaires à d'autres endroits, ce qui multiplie les zones où chercher des restes humains.
Mais ce que dénoncent surtout les ONG, c'est le manque de volonté politique pour faire avancer les recherches sur les disparus. Car c'est encore un sujet extrêmement sensible au Kosovo. Pour mieux le comprendre, Kushrim Koshi, membre de la Croix-Rouge, a tenu à nous conduire dans les hauteurs de Djakova.
Voici le cimetière de Meja.
C'est là que chaque année, le gouvernement vient commémorer le jour des personnes portées disparues au Kosovo, un cimetière qui est en train d'être entièrement reconstruit par les autorités.
C'est le pire massacre du Kosovo. Ça s'est passé le 27 avril 1999. Ici, 376 personnes ont disparu en l'espace d'une journée. Là, sur cette montagne, les autorités yougoslaves ont fait se séparer les femmes et les enfants des hommes et ont exécuté ces derniers.
Les responsables de ce massacre, des militaires yougoslaves, ont été condamnés au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Mais c'est un autre tribunal qui est dans tous les esprits en ce moment. Les chambres spéciales du Kosovo, délocalisées à La Haye, elles doivent juger les criminels de guerre kosovars albanais. Parmi eux, peut-être le président ou encore le premier ministre. Dans ce contexte, les responsables d'ONG comme Louis Gendou de la Commission internationale pour les personnes portées disparues ont le sentiment que les autorités bloquent les informations de peur qu'elles puissent être réutilisées dans de futurs procès.
Mais nous appelons les deux gouvernements serbes et kosovars à enfin nous transmettre de nouvelles informations pour qu'on puisse découvrir de nouveaux charniers.
Tant que le dialogue reste rompu entre le Kosovo et la Serbie, les ONG ne peuvent compter que sur leur réseau dans la région pour poursuivre leurs recherches sur les disparus.
Lila Lefebvre avec Florie Castin pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
BBC News, Al-Dazera, CBS Morning News,
France Inter, Public Broadcasting, le 18-20,
equals more reasons to watch.
La dans le monde.
Carte blanche des correspondants de France Inter nous fait voyager ce soir de la Russie jusqu'à l'Italie. C'est à l'Est que l'on commence. Bonsoir Moscou, bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Claude, c'est difficile de ne pas revenir sur ce drame total du centre commercial de Kemerovo en Sibérie occidentale. 64 morts, 41 enfants, des gens prisonniers des flammes dans un cinéma pour la plupart. Ces enfants qui appelaient leurs parents pour leur dire « je suis en train d'étouffer, je vais mourir ». Terrible, 5 jours après la catastrophe, au lendemain du deuil national qui a été décrété par Poutine, le mécontentement n'est pas retombé, loin de là, Claude.
Oui, parce qu'au cœur du problème, il y a le mal endémique de la Russie, la corruption. Vladimir Poutine a beau faire arrêter pour faute ou négligence des responsables locaux, tout le monde sait que si les pompiers, par exemple, sur place n'étaient pas assez nombreux dimanche, c'est parce que l'argent public, qui aurait pu permettre d'en recruter davantage, est parti ailleurs. Tout le monde sait que si les vérifications des systèmes de sécurité n'ont pas été faites correctement, c'est parce qu'un responsable local s'est laissé convaincre, sans doute moyennant pot de vin, qu'il fallait en priorité que le centre commercial ouvre au plus vite pour que l'argent rentre rapidement dans les caisses. Alors évidemment, la colère spontanée a grondé sur place très fort à Kemerovo, autour des familles des victimes, mais aussi dans toutes les grandes villes du pays. Et là, fort opportunément, une journée de deuil national a été décrétée par le Kremlin, journée qui a permis de canaliser les mécontentements et d'identifier ceux qui tenteraient d'exploiter les colères à des fins politiques.
Alors justement, Claude, est-ce que ce mouvement de mécontentement qui part d'une émotion pourrait se transformer en un rassemblement plus politique et viser donc directement Vladimir Poutine ?
Ah, écoutez, dès mardi, alors que Vladimir Poutine était sur place à Kemerovo pour visiter des blessés dans les hôpitaux et des familles, on a commencé à entendre dans les rassemblements des Poutines d'émission. Des opposants comme Alexei Navalny à Moscou étaient dans les cortèges. Et le fait que la corruption soit au cœur du drame rend le Kremlin nerveux précisément sur ce point. Vladimir Poutine a ensuite beau jeu de rappeler que certains poussés depuis l'étranger, selon lui, profiteraient du drame pour tenter de déstabiliser le pays. Le tout parfaitement relayé par les grands médias fédéraux. Donc pour l'instant, la colère reste encore forte. Elle s'exprime de façon dispersée sur la toile. Mais il est difficile de dire si les circonstances du drame de Kemerovo peuvent conduire plus loin, car pour que le mouvement se politise réellement, il faudrait une force politique, justement, capable de fédérer une telle démarche. Ce levier n'existe pas aujourd'hui en Russie. Et pour le sociologue Alexei Malashenko, la société russe, notamment dans les grandes villes, se tient à l'écart.
Et qu'est-ce que vont faire là-haut, les élites ? On ne sait jamais. Si parfois quelque chose arrive, je peux admettre que ça va arriver de la province, non pas de Moscou ou de Saint-Pétersbourg.
Donc rien ne bougera encore une fois, Claude, on l'a bien compris. Au final, jusqu'où Vladimir Poutine ne retourne pas encore une fois la situation en sa faveur ?
Et oui, et pour l'instant, ça semble effectivement le cas. Avec un peu de recul, le deuil national décrété après la catastrophe, tout ça fait passer totalement au second plan, par exemple, les sanctions occidentales, les nombreuses expulsions de diplomates russes, au moment justement où les gens ici, notamment dans les grandes villes, commençaient à se demander jusqu'où cette pression internationale allait conduire.
Claude Brouillot, à Moscou, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. Bonsoir l'Italie, bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, chez vous, on va parler de mafia. Alors c'est un peu comme emmener ses saucisses à Francfort, si je puis me permettre. Mais pourtant, les gens aiment ça. Ici, chez vous, en Italie, vous nous racontez que la RAI, en ce moment, surfe sur le succès des séries. Tiens, un bout d'extrait d'abord.
Erano giorni d'inferno. Giorni di morti ammazzate per strada. Blitz, interrogatori, macchine blindate.
Mathilde, expliquez-nous ce qu'on entend là. C'est quoi?
Alors ça, c'est un extrait de la série Le Chasseur, Il Cacciatore, qui est diffusé sur Rai 2 et chaque mercredi soir. La Rai, la télé publique italienne, hein, qui est fréquemment taxée de ringardise, surprend avec cette série. Elle fait 10% d'audimat chaque semaine. Elle convainc plus de 2 millions de téléspectateurs et les retours de la critique sont excellents. Le Chasseur a d'ailleurs été sélectionné au premier festival des séries de Cannes qui s'ouvre dans quelques jours. Alors Le Chasseur est tiré de l'autobiographie d'Alfonso Sabella, un magistrat entré au poule anti-mafia de Palerme juste après l'assassinat des juges Falcone et Borsellino. C'était en 1993. Sabella se chargera en particulier de traquer les clans de Corleone et les boss qui se planquent. Il est contraint de vivre sous escorte policière, de renoncer à sa vie privée. Particularité de cette série, elle met en valeur les serviteurs de l'État, la force anti-mafia, loin d'une production comme Gomorra qui se concentre plus sur les cercles de criminels. Alors c'est une page sombre dans l'histoire de l'Italie que la série retranscrit efficacement. Et le magistrat protagoniste, toujours en service aujourd'hui, m'a confié qu'il faisait encore des cauchemars, vous voyez, 25 ans plus tard, en repensant à ses années palermitaines, en particulier à l'enlèvement du petit Di Matteo, qui est mis en scène dès les premiers épisodes du Chasseur. C'est ce fils de repenti, âgé de 12 ans, séquestré durant 3 longues années par Cosa Nostra avant d'être tué, puis son corps dissous dans l'acide. Un échec alors pour la magistrature italienne, un point de non-retour dans la violence mafieuse.
Alors Lara, il ne va pas s'arrêter là du coup, Mathilde. Elle va proposer, le mois prochain, une nouvelle série.
Oui, sur Rai Uno, La Mafia ne tue que l'été. Ce sera la deuxième saison programmée fin avril. Elle raconte ces séries, la présence banale de la mafia, la manière dont elle se substitue à l'État dans des régions déshéritées en proposant qu'une maison ou un boulot. Et c'est une série là qui jouera davantage sur l'humour, disons.
Alors ces séries, Mathilde, elles font écho aussi au titre des journaux, hein.
Oui, car la mafia, naturellement, a changé de forme. Elle fait couler moins de sang, mais elle n'a pas disparu. Je vous parlais de ces fugitifs. Il y en a un qui court toujours. Il s'appelle Matteo Messina Denaro. Un quart de siècle que tous les services sont à ses trousses. Eh bien, selon l'hebdomadaire L'Espresso, ce mafieux vit en Italie, entre la Sicile et la Toscane, protégé par son réseau sicilien, mais aussi par la 'Ndrangheta calabraise. Il se serait refait le visage. C'est un témoin qui a vu Messina Denaro récemment, qui parle en exclusivité dans L'Espresso. Le premier hebdomadaire italien cette semaine, et là, ce n'est plus du tout de la fiction.
Voilà, merci beaucoup l'Italie qui parle de mafia, qui lit de la mafia, qui regarde des séries sur la mafia. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Et le monde à l'envers de Jean-Marc Four, comme tous les jours dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, après le meurtre de Mireille Knoll et les marches blanches, la marche blanche qui a eu lieu hier à Paris en tout cas, mais pas seulement d'ailleurs, la France s'interroge sur ce nouveau meurtre antisémite. Et ce soir, vous mettez pas le monde à l'envers, mais vous nous invitez à une sorte de zoom arrière sur le sujet en fait. Le retour de l'antisémitisme dépasse les frontières de la France. Elle touche désormais une très grande partie de l'Europe, Jean-Marc.
Oui, cette Europe où la population juive a été exterminée il y a 75 ans, 6 millions de morts. Il faut rappeler ce chiffre encore et toujours, 6 millions de morts. C'est comme si toute une partie de la population de cette même Europe avait oublié. C'est sidérant. Le fait le plus marquant, c'est l'essor dans plusieurs pays du continent d'un antisémitisme que l'on pourrait qualifier d'antisémitisme du quotidien, terrifiante banalisation. C'est en France, malheureusement c'est vrai, que se produisent les événements les plus dramatiques avec des meurtres. Ilan Halimi, l'école de Zahra Torah, l'hypercachère de Vincennes, Sarah Halimi, aujourd'hui Mireille Knoll. Mais la dérive touche aussi nos voisins avec une nette augmentation des actes antisémites en Belgique, en Allemagne, en Suède. Vous voulez des exemples ?
Allez-y.
La liste est longue et ça n'a rien d'un inventaire à la Prévert. Ces derniers mois, tentative d'incendie contre une synagogue à Göteborg, insultes contre des enfants à Bruxelles, graffitis sur les portes de bâtiments juifs à Berlin. Et le phénomène se développe aussi dans un pays longtemps épargné par cette haine obscurantiste. Je veux parler du Royaume-Uni où les incidents à caractère antisémite ont augmenté en un an de 36%.
Alors Jean-Marc, au-delà de ces agressions du quotidien dont vous parliez, ces terribles agressions, est-ce qu'on peut parler d'une forme quoi, d'institutionnalisation de l'antisémitisme en Europe ?
Oui, il y a là aussi une évolution inquiétante. Le discours n'est pas nécessairement antisémite, mais il est au moins révisionniste et il est porté y compris par des pouvoirs en place ou des partis de gouvernement. L'exemple le plus frappant, c'est la Pologne. Avec cette loi promulguée il y a 2 mois sur la Shoah, elle interdit l'utilisation de la formule « camp de la mort polonais ». Alors c'est vrai, Auschwitz, Sobibor ou Treblinka étaient des camps de l'Allemagne nazie installés sur le sol polonais et non des camps polonais. Mais cette loi contient un déni implicite de toute responsabilité de civils polonais dans l'extermination de 3 millions de juifs dans ces camps, responsabilité pourtant établie. Même chose, même type de processus négationniste en Ukraine, où le livre d'un historien britannique a été récemment interdit par le pouvoir, il évoquait le rôle de miliciens ukrainiens dans la Shoah par balles. Avec le FPE d'extrême droite en Autriche, le parti nationaliste flamand en Belgique, on trouve aussi dans des coalitions de gouvernement des partis empreints de l'idéologie révisionniste. Et en Autriche, toujours, des chants néo-nazis ont été découverts dans le répertoire d'un groupuscule proche du FPE, donc d'extrême droite. On pouvait y lire « Mettez les gaz, on peut arriver au 7e million ». Référence épouvantable, comment la qualifier aux 6 millions de juifs exterminés. Et en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban, actuellement en campagne pour les législatives, se livre depuis de longs mois à une campagne avec de vraies relances antisémites contre le milliardaire George Soros. Donc oui, l'Europe voit bien renaître en son sein la bête immonde et elle prospère sur un double terreau, le premier traditionnel, celui de l'extrême droite, le second, plus récent, un antisémitisme nourri par le radicalisme islamique, notamment en France ou en Grande-Bretagne.
Donc si je vous suis, Jean-Marc, c'est un problème qui touche tout le continent. Ça veut aussi dire que pour agir, il faut le faire au niveau du continent ?
Exactement. D'abord, ne pas se contenter de belles paroles du style « soyons vigilants », évidemment déployer aussi les moyens de police et de justice suffisants, mais surtout donc travailler sur 2 axes sans doute qui seront efficaces à la condition d'être pilotés en effet au niveau européen. Premier axe, lutte contre toutes les dérives sur Internet, parce que la toile est devenue la caisse de résonance, de recyclage, vous savez, des vieux fantasmes sur le juif qui serait soit plein aux as, soit aux manettes d'un grand complot international. Deuxième axe, c'est l'enseignement de la Shoah. Parce que la disparition progressive des survivants semble comme s'accompagner d'une levée du tabou, comme s'il redevenait légitime de contester l'Holocauste. Donc il est essentiel de l'enseigner dans ses détails et particulièrement de dispenser cette connaissance aux réfugiés du Proche et du Moyen-Orient qui arrivent sur notre sol. Pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent baigné dans un environnement idéologique et éducatif où la Shoah était sinon niée, du moins reléguée au second plan. Et là encore, la recherche d'une forme d'enseignement commun en Europe sur le sujet serait sans doute très utile.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup. On se retrouve lundi le 18-20 de France Inter. Continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne.